Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne parce que les anges aux cieux t'adorent. Et nous qui avons été créés et qui avons été sauvés par ta miséricorde, qu'est-ce que nous devons faire sinon te louer, t'adorer, t'élever, te magnifier, t'honorer, Seigneur. Et nous sommes dans la joie encore ce soir parce que l'opportunité nous a été accordée d'être de ce côté de la vie. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Nous n'avons rien mérité, Seigneur Jésus, mais c'est une grâce tout simplement que nous avons reçue de toi pour que nous puissions être de ce côté du temps et que nous puissions encore être présents en ce lieu pour pouvoir écouter ta parole. Seigneur, que ton objectif soit atteint, c'est-à-dire que les âmes soient touchées, que les âmes soient sauvées, que nous puissions marcher comme de vrais combattants de la croix. Nous te faisons confiance, Seigneur. Ce soir, la bouche sera la mienne, mais les paroles seront les tiennes. Je te prie encore, Père, que tu puisses oindre les oreilles qui vont écouter et que tu disposes le cœur de tout un chacun pour qu'il puisse recevoir comme il se doit la nourriture que tu nous as préparée ce soir. Honneur et gloire te soient rendus. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue de tout mon cœur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être encore là ce soir, mes bien-aimés. Non pas pour faire un défilé de mode, ni pour venir acheter, mais nous sommes ici ce soir pour venir écouter la parole de Dieu de la part du bon berger. Alléluia. Le bon berger. Selon Jean 10, du premier verset au 11e verset, il est écrit que le bon berger est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Comprenez-vous cela? Que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mais maintenant, sur le terrain, sommes-nous dans l'abondance? Nous, qui sommes ce soir, sommes-nous dans l'abondance? C'est-à-dire, pas les choses de ce monde. Non. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné de surcroît. Sommes-nous en abondance par rapport aux choses du royaume, c'est-à-dire le fruit de l'esprit? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes capables de marcher selon l'esprit? Sommes-nous capables de nous affectionner des choses d'en haut? Ce sont là les questions que nous pouvons nous poser. Frères et sœurs, la fois passée, nous avons commencé un nouveau thème sur la prière. Ce thème doit nous permettre d'être approuvés par notre conscience en ce qui concerne sa pratique, nos consciences doivent être éprouvées. C'est bien. Dans la bouche, nous avons tendance à dire que ça va, ça marche. Très bien. Et le premier sujet dans ce thème, la fois passée, c'était prier sans cesse, n'est-ce pas? Prier sans cesse, mais nous nous sommes interrogés. Cet ordre était donné à qui? Je vous avais dit, j'aurais bien voulu que cet ordre soit donné aux Corinthiens. Parce que dans cette assemblée, il y avait tout et n'importe quoi. Alléluia. Par contre, donner cet ordre aux Thessaloniciens, ça me paraissait un peu bizarre. Parce que les Thessaloniciens étaient des vrais combattants de la foi. Alléluia. Ils n'étaient ni paresseux, ni négligents. D'ailleurs, ils étaient des modèles de la foi dans ces contrées-là. Alléluia. Mais alors, l'Esprit vient quand même dire, priez sans cesse. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes puissent prier en élevant des mains pures. Donc, quand des gens comme les Thessaloniciens devaient recevoir cet ordre, vous et moi, quel est notre témoignage? Le témoignage de la Bible concernant les Thessaloniciens, on nous dit qu'ils étaient des modèles à leur foi. Et ils ont fait du travail dans la foi. Malgré les difficultés, ils n'ont jamais renoncé. Soulignez ça. Les Thessaloniciens, malgré les difficultés de la vie, ils n'ont jamais renoncé. Alors, nous là-bas, vous savez, quand nous sommes arrivés, il y avait une sœur et un frère. Quand j'ai vu l'humilité qui est là, là au coin, je disais au frère, tu sais, chaque fois que je viens ici, que je vois cette humilité, ça me rappelle mes premiers jours quand je suis arrivé en Europe. Je suis arrivé ici le 12 août, un mardi, à 20h, 1986. Et le premier studio d'étudiants que je louais, j'ai vu de toutes les couleurs. Le papier peint s'est décollé et tout était mouillé. Mes amis sentaient de l'humilité. Et je disais aux frères, alors chaque fois que je vois ça, ça me rappelle ce temps-là. Il a rigolé, il m'a dit, le frère Benoît a déjà quelqu'un qui viendra le faire. J'ai dit, merci beaucoup. Parce que quand je vois ça chaque fois, et aujourd'hui, messieurs et dames, nous avons des cravates. Messieurs et dames, nous sommes bien assis. Nous croisons même nos pieds ici quand nous venons. Mais ici, autrefois. Alors aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que nous avons un bon témoignage comme ceux des Thessaloniciens, des vaillants, malgré les difficultés? Soit. Priez sans cesse. Je pense que vous avez fait comme les chrétiens de Béret. Les 7 instructions du Seigneur que nous avons vues en observant pour que nous puissions déduire la définition de prier, vous êtes rentré à la maison calmement, voire pour vous en faire une conviction. Nous avons vu ce qu'était la prière et ce qu'elle n'était pas. Alléluia. Et nous avons terminé par 3 grandes vérités. Et ces vérités doivent nous suivre. Et ces 3 grandes vérités, on l'a dit, première vérité, prier, c'est demander. Et être exaucé, c'est recevoir. Deuxième vérité, prier, c'est chercher. Et la réponse, c'est trouver. quand vous cherchez quelque chose, vous devez trouver. Puisque la chose est précise, la chose est bien définie. Troisième vérité, prier, c'est frapper. Et la réponse, c'est ouvrir. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur qui parle, hein, pas un homme. C'est le Seigneur lui-même. Alors nous entrerons, nous avons annoncé ces vérités, telles que le Seigneur nous les a présentées, mais nous entrerons en détail, si Dieu le veut, pour que nous puissions bien comprendre. Maintenant, nous sommes dans les généralités. Alors, ces trois vérités doivent vraiment nous aider. Que quand nous allons nous mettre à prier, mettons-nous en tête que prier, c'est demander, être exaucé, c'est recevoir. Après, on verra. Ça sera le quatrième point que j'avais annoncé. C'est-à-dire, le quatrième point dans cette affaire-là, indiquer que la réponse à la prière consiste à recevoir avec les différents aspects. Là, nous entrerons dans les détails. Comment recevoir, comment les prières sont exaucées selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, je vous invite à vous lever et à prendre l'évangile de Luc, chapitre 18. Nous lirons les versets premiers. Nous y sommes? Nous y sommes? Nous allons lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Fabrice, c'est la suite. Mais la parole de ce soir, nous allons l'intituler de la manière suivante. Priez toujours et ne point se relâcher. Alléluia. Priez toujours et ne point se relâcher. On a déjà vu, selon le contexte de 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Synonyme, c'est prier toujours. Alléluia. Donc, on ne reviendra plus là-dessus. Ça a été expliqué la fois passée. Mais je voudrais quand même expliquer la deuxième partie sans se relâcher. Alléluia. Priez toujours sans se relâcher. Mais avant d'y arriver, avec ce sujet, prier toujours et ne point se relâcher, je voudrais aborder aujourd'hui le deuxième point que j'avais annoncé, c'est-à-dire pourquoi prier. Et le troisième point, le domaine de la prière. Donc, ce sujet de ce soir servira à expliquer ces deux moments-là. Pourquoi prier? Quand nous aurons expliqué le pourquoi prier, maintenant nous devons voir quels sont le domaine de la prière. Alléluia. Ne point se relâcher. Veut dire ne pas se lasser ou rendre moins intense, moins rigoureux un effort ou une action. Synonyme, faiblir. fléchir. Alléluia. Point se relâcher. Ne pas se lasser. Ou rendre moins intense, moins rigoureux un effort ou une action. Cette expression a comme synonyme faiblir ou fléchir. Maintenant, priez toujours et ne point se relâcher. Pourquoi dois-je prier? Pourquoi dois-je prier? Nous avons défini la prière selon les instructions de Christ dans 7 points. Il nous dit, prier, c'est demander. Maintenant, pourquoi dois-je prier, mon frère? Pourquoi dois-je prier? Le Seigneur enseigne au sujet de la prière 2 paraboles dans Luc 18 que nous venons de lire, n'est-ce pas? Mais nous allons seulement prendre le premier parabole du verset 2 au verset 5. Je ne vais pas lire. Pourquoi le Seigneur donne cette parabole aux disciples? Enfin, lisons quand même. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, c'est le juge qui dit en lui-même, quoi? Quoique je ne craigne point Dieu, félicitations, tu es au moins juste vis-à-vis de toi-même, parce que ta conscience te juge. Il dit, et que je n'ai d'égard pour personne. Oh, quel méchant homme. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Dans quel but le Seigneur donne aux disciples cette parabole au sujet de la prière? Le Seigneur veut nous exercer et faire de nous des hommes de prière solides. Alléluia. En nous obligeant à prier dur pour ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. De vraiment des hommes faits et des femmes faites qui ne relâchent pas. Toujours, toujours, toujours à la pointe jusqu'à sec. Il nous faut donc prier jusqu'au bout. Alléluia. Et dans Luc 11, verset 5, 8, il nous donne une autre parabole. Luc 11, verset 5, 8, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez
et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Alléluia. Toujours déclaration du Seigneur. Bien établie. Demandez, c'est recevoir. Alléluia. Ici, dans cette parabole, nous avons la nécessité de prier avec l'importunité. Comme il est écrit ici, au verset 8, je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Alléluia. Nous avons ici la nécessité de prier avec l'importunité, qui veut dire caractère de ce qui est important. Important veut dire qui ennuie. Ça gêne par sa présence. Ah, mais c'est encore lui. C'est encore. Non. Vous comprenez ça? Donc, votre présence gêne. Vous ne partez pas. Je suis là jusqu'à ce que. Alléluia. Priez avec l'importunité. Et quand nous lisons dans Matthieu 15, versets 21 à 28, le cas de la femme cananéenne, vous avez vu quel a été son comportement, n'est-ce pas? Elle n'a pas abandonné tant qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle voulait. Bien que le Seigneur l'a traitée de chien, elle était là. Elle était là. Elle voulait la guérison de sa fille, n'est-ce pas? Ah! Jusqu'au bout. Parce que pour elle, c'était quelque chose de meilleur. La guérison de sa fille. Mais, malgré tout ce que nous venons de lire ici, beaucoup manifestent la faiblesse de caractère. Après deux ou trois essais, ils abandonnent le combat. Oh, honte à nous. Honte à nous. On nous dit de prier avec l'importunité. Amen. Ce n'est pas prier avec l'importunité. Une fois, deux fois, ah, je suis fatigué. Ce sujet-là, j'ai oublié. Mais tu as oublié pourquoi? Tu as formulé la demande, il faut attendre. Tu continues. Si vraiment, tu es dans le besoin et que tu veux avoir une réponse, mais hey, tu as vu cette dame, jusqu'au point d'être touchée dans son ego. Mais elle n'a pas abandonné. Bien au contraire. Alléluia. Elle a persévéré. Priez toujours sans point se relâcher. Pourquoi prier? Ça, c'est notre question à laquelle nous allons tenter de répondre. Pourquoi prier? Puisque Dieu sait tout. On doit laisser Dieu tranquille, n'est-ce pas? Puisqu'il sait tout, pourquoi je dois continuer à l'importuner? Mais non, il sait tout. Il sait de quoi dont j'ai besoin. Est-ce que les oiseaux demandent? Hein? Les animaux dans la forêt demandent? Mais ils trouvent quand même à manger, non? N'est-ce pas? Mais Dieu ne peut pas faire sans vous. Alléluia. Dieu ne peut pas faire sans vous. Vous vous souvenez encore de l'exemple que je vous ai donné? Moïse, quand il priait, quand il levait les mains, et les autres étaient derrière pour le soutenir. Donc, la question de gagner le combat dépendait de la terre ici. Quand il levait les mains, il soutenait, il y avait la victoire. Et quand il baissait les mains, Israël était battu. Il faut que ton libre arbitre soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Alléluia. Ce sont des subtilités de la vie chrétienne. Il ne faut pas aller vite en besogne, il faut y aller calmement. Si votre héros, c'est Usain Bolt, attendez, commencez d'abord par marcher. Alléluia. Commencez d'abord à marcher à quatre pattes. Se mettre debout et commencer à courir. Si vous dites directement courir comme Usain Bolt, mais tu vas t'écraser. Et c'est ça que nous ne comprenons pas dans la chrétienté. Il faut y aller tout doucement. Mais comment est-ce que tu atteindras cette performance, cette maturité? Justement, c'est dans la question, pourquoi prier? Alléluia. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Avant de répondre à cette question, sachons d'abord à qui nous nous adressons. C'est important. À qui nous nous adressons? Nous adressons, si nous sommes d'accord, à notre Père. Alléluia. Qui est notre Créateur. Qui sait tout de nous. Très bien. Et il est écrit dans 1 Jean 3. Nous lisons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Donc c'est notre Père. Un enfant ne peut pas avoir peur de son Père. Hein? Impossible. Moi, je connais un garçon, quand il était enfant, son père allait le chercher à l'école gardienne. Et justement, sur le long de la route qui menait vers leur maison, il y avait des magasins et une banque. Et cet enfant, à l'époque, avait l'habitude, chaque fois qu'il passait là-bas avec son père, de demander à son père, « Ah, papa, achète-moi ceci. Il faut prendre ceci, il faut prendre cela. » Et quand on entrait dans les magasins, il voulait tout prendre. Et son père lui disait toujours, mais il n'a pas de sous. Et quand on passait devant la banque, l'enfant disait à son père, papa, voici les trous. Vois dans les trous. Et son père lui disait, mais ce n'est pas possible. Avant que le trou ne donne de sous, il faut que papa puisse mettre de l'argent là-dedans. Sinon, le trou ne donne pas l'argent comme ça. Alléluia. Ça, c'est la naïveté d'un enfant. Alléluia. Un enfant, son père peut tout. Son père peut tout. Il va demander un avion. Pour lui, c'est normal, puisque c'est papa. Alors nous, on nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible témoigne, et nous le sommes. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu, là où tu es? Très bien. Et 1 Jean 5, verset 14, comme toi tu es enfant de Dieu, écoutez ce que 1 Jean 5, verset 14 dit. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez-vous? D'abord, le Père n'est pas indifférent. Il nous écoute. Quelle garantie? Et d'ailleurs, il est écrit là-haut, quelle assurance? Hein? Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons, on fait toujours référence à votre savoir. À votre savoir. Vous savez par l'esprit. Alléluia. Pas par votre intelligence. Vous savez par votre esprit. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Vérité biblique. Vérité biblique implacable. Continue. Comme nous sommes ses enfants, mes frères et sœurs, la prière est la clé qui nous mène au cœur de Dieu. C'est le seul moyen de communication qui nous permet de parvenir à une relation personnelle avec lui. Est-ce que nous voyons ça? C'est par la prière. Ceci étant, il y a donc autant de raisons pour prier. Autant de raisons pour prier au vu de ce que nous venons de lire dans 1 Jean 3:1 et 1 Jean 5:14, n'est-ce pas? Plusieurs raisons, mais j'en citerai deux. Vous pouvez en trouver d'autres, mais moi j'en citerai deux. Prier, c'est une nécessité. Alléluia. Nécessité. Un besoin. On ne peut pas s'en passer. Alléluia. L'air n'est pas plus indispensable aux poumons que la prière ne l'est pour un croyant. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est une nécessité prier pour un croyant. Une nécessité. Comme je viens de le dire, c'est le seul moyen de communication qui nous permet de parvenir à une relation personnelle avec Dieu. Sans ça, oubliez. Oubliez que vous êtes enfant de Dieu. Oubliez ça. Dans la foulée, je dirais, la prière, c'est aussi la colonne vertébrale du croyant. Nous connaissons très bien le rôle de la colonne vertébrale dans un corps. Soutenir le poids du corps et nous permettre de bouger et faire pivoter la partie supérieure du corps. Sans cela, pas de mouvement. Vous êtes statique. Alléluia. Il y a des gens qui font aussi de l'hernie discale. Ah, j'étais bloqué, frère. Pas moyen de bouger. Alléluia. J'étais bloqué, pas moyen de bouger. Allô, mon Jésus. J'écoute sans comprendre. Frère, comment j'étais bloqué? Oui, pas moyen de bouger. Ah, la colonne vertébrale n'a pas joué son rôle en ce moment-là. Alléluia. Ah. C'est ça. Pourquoi prier? Parce que la prière, c'est la colonne vertébrale du croyant. Hein? Qui lui permet de faire tous les mouvements possibles dans le méandre de la vie. Alléluia. C'est par la prière qu'il va s'en sortir. Deuxième raison. La prière est la voie par laquelle nous avons la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Alléluia. Pour mieux comprendre cela, je vous invite à lire Acte 2. La prière est la voie par laquelle nous avons la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. Donc, enfin, pour bien comprendre le contexte, lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Il est écrit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis a maltraité quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Amen. Donc je disais, la prière est la voie par laquelle nous avons la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Ici, Hérode a été vaincu par la prière. Alléluia. Prenons aussi Colossiens. Colossiens 4. Pour appuyer ce que nous avançons. Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12, nous lisons. Epaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Suivez bien. Il ne cesse de combattre pour vous dans la méditation. Qu'est-ce qui est écrit? Dans ses prières. Pourquoi? Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Il priait pour que les Colossiens aient la maturité. Alléluia. Et de ne pas broncher devant les ordres du Seigneur. Et 1 Pierre 4, verset 7. Nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Mais commençons à lire à partir du verset 6. Au verset 6, il dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc au verset 6, Paul fait mention aux chrétiens qui sont morts. Et au verset 7, il fait allusion maintenant à l'imminent retour de Christ. Alléluia. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Donc, les chrétiens doivent donc être sages, c'est-à-dire avoir un esprit sensé. Pour faire quoi? Pour vaquer. Vaquer, c'est-à-dire s'appliquer à, s'occuper de. Vous comprenez? C'est important. Avoir un esprit sensé et sobre de manière à pouvoir prier. La prière à laquelle on doit accorder une très grande priorité en ces temps doit être une communication claire, raisonnable et sobre avec Dieu. Je parle de communication. Il faut bien me saisir. Je parle de communication. Une communication claire. Quand vous entrez au restaurant, on vous présente le menu, n'est-ce pas? Vous lisez la carte de menu. Alors, quand vous allez passer votre commande, vous devez être clair par rapport à ce dont vous avez besoin, non?
ne faut pas commencer.
Non. Il faut dire les choses clairement. Moi, je veux, comme moi, mon restaurant préféré, c'est le quick.
Quand j'arrive au quick, ma commande, elle est claire. Elle est claire.
Fabio, c'est quoi ma commande?
Ah,
je suis clair. Et je lui dis toujours, hé, hey, petit, quand ma commande arrive, j'enlève tout ce qui est à l'intérieur.
Ah oui. Il faut être clair, il faut être clair, il faut être clair, il faut être clair.
Exprimez-vous d'une manière claire. Vous n'avez pas commencé à dire, ah, toi, qu'est-ce que tu vas manger, frère, j'ai déjà.
Oui, à moi aussi, je veux. Mais nous, toi, c'est toi. Ton besoin reste ton besoin. Voyez-vous?
Donc, pour vaquer à la prière, s'appliquer à s'occuper de la chose, tout votre être est engagé là-dedans. Alléluia. Remarquons ensemble certaines réalités dans la vie de la prière. Alléluia. Première observation. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà vu quelque part dans les évangiles les apôtres demander à Jésus de leur apprendre à faire des miracles, de leur apprendre à chasser les démons? Par contre, le disciple, qu'est-ce qu'il demande?
Ah! Apprendre à prier! Apprendre à prier!
Quand une foule suivait le Seigneur, et le Seigneur était ému de compassion de cette foule. Il dit, mais comment est-ce qu'on va leur donner à manger? Alors Philippe dit, mais même avec si c'est 200 quoi, ça n'ira pas. Mais il y a un garçon ici qui a cinq pains ou c'est quoi? Ils seront nourris. Et puis il reste autant de paniers. Mais j'aurais eu aussi envie de demander au Seigneur, mais Seigneur, apprends-moi comment on fait ces miracles, non?
Mais ils n'ont jamais demandé ça. Ils ont demandé à être enseignés sur la prière, n'est-ce pas?
Ah, réalité de la Bible. Deuxième réalité. Dieu nous a-t-il ordonné de prêcher, de jeûner, de chanter sans cesse? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible?
Prier sans cesse.
Alléluia.
Dieu ne nous a jamais demandé. Dieu ne nous a jamais ordonné de prêcher, de jeûner, de chanter sans cesse ou de danser sans cesse. Mais il nous a ordonné de prier sans cesse.
Alléluia. Troisième réalité. Le Seigneur avait beaucoup de disciples, parmi lesquels il devait choisir 12 qui allaient porter le nom d'apôtre. Alléluia. En grec, apôtre, c'est apostolos par opposition au terme disciple qui veut dire matetas. Les disciples suivaient le Seigneur, n'est-ce pas? Ceux qui suivaient le Seigneur, les apôtres, étaient ceux qui était envoyé comme un messager et à qui on avait délégué une certaine pouvoir. Alléluia. Il suffit de lire Luc 10, verset 19. Amen. Mais vous savez quoi? Avant de choisir les 12 apôtres, le Seigneur a passé toute une nuit dans la prière. Alléluia. Et avant d'être crucifié à la croix, le Seigneur, Luc 23, le Seigneur va prier. Et qu'est-ce que nous pouvons retirer comme enseignement concernant la prière? Luc 23. Luc 23, verset 46. Nous lisons. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. Et à la croix même, il va prier pour ceux qui étaient en train de le crucifier. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Alléluia. Vous voyez bien la place prépondérante qu'occupait la prière dans la vie de notre Seigneur. Alléluia. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, toujours il est en communication avec le Père pour qu'il puisse recevoir du soutien. C'est dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière qu'il est assisté. Jamais il n'a relâché. La prière a toujours occupé une place importante dans la vie de notre maître. Alléluia. Un disciple ne sera pas plus que le maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia. Un disciple n'est pas plus que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Alors, où en sommes-nous? Si nous sommes des disciples, sommes-nous accomplis? Ce sont des bonnes questions qu'on peut se poser, boss. Hein? Je n'épingle personne, depuis la chair jusqu'à là au fond. Sommes-nous accomplis? Ah, il y a encore du chemin, n'est-ce pas? Ah. Sommes-nous accomplis? Puisque nous devons être comme le maître. Comment était le maître? Le maître priait sans se relâcher, même dans le moment le plus sombre de son existence. Alléluia. Ceci étant, la prière n'est pas une habitude, ni une petite grâce décente dite avant de manger. Mais c'est le plus noble exercice du chrétien. Alléluia. La chose la plus réelle pour les chrétiens. En termes de valeur, c'est une chose sublime. Alléluia. La prière. C'est une chose sublime. S'il faut hiérarchiser. Alléluia. Mais la prière, ce n'est pas n'importe quoi. Non. Hein? La prière, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut bannir toutes les prières officielles, professionnelles, formalistes, longues, prières de mendiants. Alléluia.
Parce que c'est officiel, bon, voilà. Non, messieurs, non, messieurs. Ce genre de prière glace et tue. Ça n'apporte rien. Alléluia. Il n'y a que la lettre. L'enjancement des phrases, des belles phrases, bien ordonnées, du point de vue syntaxique, très bien, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Ça glace, ça tue. Nous avons besoin de la prière qui vient réellement du cœur. Alléluia. Réellement du cœur, de prière par le Saint-Esprit. C'est-à-dire biblique et simple. Il est écrit, Éphésiens 6. Oh. On demande de prier, on prend des aires kilométriques pour rien. Éphésiens 6. Verset 18. Il est écrit ceci. Puisqu'on réclame des prières par le Saint-Esprit, c'est-à-dire biblique et simple. Il est écrit ceci. Faites en tout temps, voyez-vous, par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il ajoute. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Voyez-vous? Veillez, veillez. Donc, la prière, ce n'est pas de la blague, comme je disais. C'est quelque chose de sublime dans notre vie de croyant. Tout chrétien qui ne fait pas de la prière le puissant facteur de sa vie, autant que sa marche sera faible, sans succès, bref, sans vie. Tu es un figurant. Parce que l'essentiel n'existe pas chez toi, il n'y a pas. Alléluia. Tu passes dans de... Je veux bien, louer c'est bien, méditer c'est bien, tout ce que vous voulez... Mais attendez, et chaque chose a sa place, non? Chaque chose a sa place, chaque chose a sa place. Priez. Frères, sœurs, en tout cas, nous nous supplions d'éviter des prières officielles, professionnelles, formalistes. Longue prière de mendiant qui ne nous apporte rien. Alléluia. Ah, frère, que dois-je demander en priant? Cette question va nous aider maintenant à aborder le troisième point. Le domaine de la prière. Alléluia. Le domaine de la prière. Nous venons de voir brièvement le pourquoi de prier. Ben oui, frère, que dois-je alors demander dans mes prières? Nous pouvons maintenant, les quelques minutes qui nous restent, parler du domaine de la prière et appelons Philippiens 4. Verset 6. Philippiens 4, verset 6. Qu'est-ce que nous lisons? Mes bien-aimés, vous y êtes? Là, je vous attends. Parce que c'est un autre point que nous abordons à travers ces versets. Qu'est-ce qui est écrit? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Aux inquiétudes,
Paul oppose quoi? La prière par laquelle l'enfant de Dieu dépose à son Père chaque sujet d'inquiétude ou de peine. Alléluia. Est-ce que nous avons lu la même chose? C'est vrai? Nous avons la même compréhension? Très bien. Regardez dans ces versets, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute, c'est ce mot qui définit le domaine de la prière. Alléluia. En toute. Je devais aller revisiter M. Grévis pour qu'il me dise c'est quoi tout. Adjectif. Alléluia. Toute forme féminine de l'adjectif indéfini, tout. Alléluia. Qui signifie quoi? Ça signifie que une chose en présente en totalité, que ce soit en nombre, en quantité, en taille. Deuxième signification, toute égale entière. Toute égale l'intégralité. Toute égale sans restriction. Ah, la réponse est donnée, n'est-ce pas? Donc ici, le domaine de la prière, toute, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses. Alléluia. Il est clair que par ces versets, nous pouvons prier pour tout ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, tout ce qui est légitime. Alléluia. Tout ce qui est légitime, c'est-à-dire, selon la volonté de Dieu. Tout ce qui est légitime. Si nous désirons quelque chose dont nous n'avons pas la liberté de demander à Dieu, dans ce cas, il faut prier pour qu'un tel désir soit ôté dans ton cœur. Ah oui? Sinon, tu seras dans l'offense. Tu vas offenser Dieu. Alors là, nous rejoignons Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que... Alléluia. Ah. Toutes choses peuvent donc devenir un sujet de prière selon la promesse du Seigneur dans Jean 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean 14, versets 13 à 14, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, voyez-vous, encore tout, encore tout, ça va? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Et Jean 15, 7 nous dit ceci. Jean 15, 7 nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Le Seigneur nous donne une invitation merveilleuse, illimitée dans le domaine de la prière, dans Jean 15, verset 7. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, nous avons le droit et même le devoir d'apporter auprès du Seigneur chacun de nos besoins. Alléluia. Parce que c'est notre papa. Nous devons ouvrir nos cœurs avant même d'ouvrir nos bouches. Il connaît l'état de nos âmes. Il connaît qu'est-ce qui est en train de nous embêter au moment où vous êtes en train de parler. Alléluia. C'est un droit, un devoir d'apporter auprès du Seigneur chacun de nos besoins. Priez toujours et ne point se relâcher. Je vais terminer en disant, je pense que là, nous avons les éléments nécessaires à une réelle prière. Les éléments nécessaires pour que nous puissions nous présenter devant notre Père. Question. Est-ce que nous demandons vraiment quelque chose à Dieu quand nous imaginons de prier? Ah oui. Demandons-nous réellement quelque chose à Dieu quand nous imaginons de prier? Oh, mais oui, frère Albert, c'est vrai, oui. OK. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font dans la prière comme des femmes qui admirent les vitrines. Elles se donnent rendez-vous, voilà, on va se rencontrer à la rue Neuve pour seulement admirer les vitrines et à la fin n'apportent rien par rapport à leur sortie. Oui. Ils n'apportent rien. Seulement les regarder dans les vitrines, voilà. Tel magasin. Et après, on rentre à la maison. Hé, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. La prière n'est pas une promenade de curiosité pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Non. Mais bien une transaction positive pour l'acquisition de biens que Dieu nous a promis. Alléluia. Demander, c'est recevoir. Quand nous intégrons cette instruction du Seigneur en nous, on ne va plus être des enfants sans base suffisante pour pouvoir faire de progrès dans notre marche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frère Tombo. Lo samboya bananzambe. Traduis d'abord. Chef, mettez-vous à l'œuvre. Comme ça, on va accompagner.